Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, les 75 ans de Paris Match. Le directeur de la rédaction, Jérôme Béglé, sera l'invité de la semaine. Un mot de notre partenaire avant de démarrer. Bonial, c'est une entreprise de médias et de technologies pour le commerce et la distribution. Bonial valorise les offres des magasins sur le digital. Des millions de consommateurs préparent ainsi leurs achats avec Bonial. Créée en 2008, la société compte aujourd'hui plus de 350 talents dans ses bureaux situés à Berlin et à Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur corporate.bonial.com. La publicité est au cœur d'une bataille entre la télévision et les plateformes de streaming. Elle est aussi à l'origine d'une fronde du monde de l'édition littéraire qui est vent debout contre l'autorisation provisoire de la publicité à la télévision pour les livres, alors qu'elle était jusque-là interdite. Une expérimentation lancée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui ne profitera selon certains éditeurs qu'aux grandes maisons qui pourront se payer les écrans. Ils estiment que l'opération ne fera que promouvoir les auteurs connus qui n'ont pas forcément besoin de publicité. Pourtant, cette expérimentation se calque sur le modèle de celle lancée il y a 2 ans au cinéma. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'a pas bénéficié qu'aux blockbusters. C'est ce qu'a expliqué Jean-Luc Chétric, le directeur général de l'Union des marques, favorable à ces ouvertures. Il était l'invité de France Info cette semaine.
La publicité à la télévision, elle a un avantage, c'est qu'elle touche un public très large dans des territoires qui sont éloignés. Donc on parle à des populations qui sont rurales, qui potentiellement n'ont pas d'accès aux livres, par exemple, ou en tout cas qui auront moins d'accès à certains médias qui promotionnent ou vont faire connaître les livres que la télévision qui peut le faire. Et donc, je crois qu'en l'occurrence, une expérimentation qui nous permet, comme pour le cinéma, de regarder si ça a des effets, et en l'occurrence, je vous le dis, ça n'en a pas eu sur le cinéma d'auteur.
Il paraît que la fréquentation aussi des salles n'en a pas pâti.
Voire c'est même, ce que dit elle a plutôt de ces derniers mois continué à progresser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, l'idée, c'est de faire aller des gens dans des librairies pour aller découvrir les livres. Alors peut-être ça se fera par des grands livres, des blockbusters, mais aussi parce que les chaînes, je le sais, vont les aider par des livres peut-être à diffusion plus limitée, mais qui seront aussi promotionnés. C'est 25% des écrans télévision du cinéma qui sont utilisés pour des films qui sont des films d'auteur. Mmh. Donc on n'est pas uniquement sur du blockbuster. Donc je pense qu'il peut en être de même pour l'édition et que cette expérimentation nous permettra d'en juger.
Ça, c'est un des arguments de Rachida Dati, la ministre de la Culture. Vous ne pensez pas quand même que là, clairement, elle fait un cadeau aux chaînes de télévision qui réclament ça depuis des années?
Moi, je ne crois pas qu'il s'agisse de cadeaux. Aujourd'hui, il y a un marché publicitaire qui est très large, dans lequel il y a beaucoup de solutions digitales, TikTok et d'autres qui se sont beaucoup développées, d'ailleurs, sur le livre. Hein, les booktokers de TikTok, c'est un phénomène qui a beaucoup grandi. Permettre à ce que certains éditeurs puissent faire de la publicité à la télévision, ça n'est pas, et ce ne sont pas des montants qui sont considérables, donc on n'est pas en train de révolutionner le marché télévisé. On est en train de préserver des équilibres, on est très attaché aux équilibres entre les différents médias, télévision, radio, presse, affichage, et là en l'occurrence, je ne crois pas que ça soit de nature à bouleverser ces équilibres.
M6 a changé de patron cette semaine, dernier tour de piste pour Nicolas de Taverneau, après 37 ans à la tête du groupe. Sa goodbye party au Palais Brongniart à Paris a eu lieu en présence des anciens et actuels visages de la chaîne. Et quelques heures avant, il était l'invité de sa radio RTL au micro d'Amandine Bégaud.
J'ai eu le temps quand même de m'y faire, mais voilà, parce qu'on m'a prêté souvent des départs qui ne sont pas arrivés. Il y avait Maxime Saada, mon collègue de Canal+, qui disait assez drôlement « Méfiez-vous, les Rolling Stones ont fait 10 soirées de départ ». Mais je rassure David, hein, c'est le bon. C'est le bon. Bonjour. Et donc, il y a un petit pincement au cœur parce qu'il y a une formidable équipe. Puis on revoit un peu de... Puis la boucle est un peu bouclée chez vous parce qu'on a commencé dans les studios d'RTL rue Bayard. C'était un placard à balai à l'époque, on était 50. Et donc de revenir dans ce studio avec vous ici, c'est évidemment c'est un peu la fin du parcours et qui montre quand même que le groupe a... On a un beau groupe aujourd'hui.
Et le nouveau patron du directoire, David Laramendi, a pris ses fonctions. Interview à lire dans Stratégie. Paris Match fête ses 75 ans avec les membres du Splendide en une. L'hebdomadaire a été fondé le 25 mars 1949. Il figure toujours dans le top 20 des magazines papier les plus vendus en France avec près de 450 000 exemplaires chaque semaine. Ce sont les chiffres de 2023 de la CPM. C'est juste avant Télérama, dans le giron de Lagardère et Vivendi. L'hebdomadaire devrait être cédé dans les prochains mois à LVMH. Alors pourquoi Paris Match est toujours là 75 ans après? La réponse de Jérôme Béglé. Il est directeur de la rédaction de Paris Match. Il est l'invité de la semaine.
Match, c'est d'abord une couverture. Que la couverture, elle doit être événementielle. Quand la couverture de match n'interpelle pas, ne se distingue pas des autres journaux, des autres hebdomadaires dans un kiosque à journaux, c'est qu'on a raté quelque chose. Par ailleurs, Match, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un peu une pochette surprise. C'est-à-dire qu'on l'ouvre, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de choses dedans, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va y trouver. Et plus la pochette surprise, elle est variée, plus elle est riche, plus elle allie la révélation, le document, l'interview, l'intime, le grand reportage qui est très important chez nous, le scoop évidemment, des belles photos, du dépaysement, de l'actu froide, de l'actu chaude, du glamour. Plus cette pochette surprise elle est remplie, plus Match plaît. Et là aussi, étant donné qu'il y a une vraie inconnue quand on achète Paris Match, ça suscite encore un acte d'achat fort et un acte d'abonnement aussi. C'est vrai que on est encore le seul hebdomadaire à sous-tangenter les 500 000 exemplaires chaque semaine quand on additionne la diffusion de kiosque, les abonnements papier, les abonnements numériques et les gens qui nous lisent exclusivement sur tablette.
Comment aujourd'hui les 75 prochaines années de deux matchs peuvent s'inscrire dans cette digitalisation tout en gardant finalement l'essence de ce qu'est Match ?
Ce retard, on va le combler. Alors, on peut le combler comment ? D'abord, je pense que l'image, la photo ou la photo qui bouge, appelons ça la vidéo, sont les drivers de l'abonnement et les drivers du succès des marques de presse, non seulement en France, partout dans le monde. Et à ce titre-là, Paris Match n'est pas mal placé. Paris Match ne doit pas faire moins bien que ses confrères. Nous avons par ailleurs 15 millions de photos en archives, dont 8 millions qui nous appartiennent totalement. Là aussi, l'exploitation de ce trésor doit nous permettre de conquérir des lecteurs qui n'ont pas saisi la balle au bond du print ou qui ont des réflexes digitaux bien ancrés en eux. Ensuite, il ne faut jamais avoir peur d'une révolution technologique. C'est-à-dire que même les lecteurs un peu plus âgés qui ont l'habitude de lire un journal, de lire leur journal sur papier, certains, tranquillement, mais lentement, mais sûrement, passent à une lecture ordinateur, à une lecture tablette, à une lecture téléphone. Donc, il y a une migration qui sera naturelle, il y a une migration qu'on va aller chercher, et on sait qu'on a des efforts à faire là-dessus, mais je ne vois pas pourquoi la recette qui a si bien marché sur le papier ne marcherait pas pour accueillir de nouveaux clients digitaux aujourd'hui sur leur téléphone, peut-être demain sur leur montre ou sur leurs lunettes.
Votre propriétaire a annoncé des négociations avec LVMH pour la vente de Paris Match. Comment vous vivez cette période qui, évidemment, n'est pas dans votre pouvoir, mais en même temps qu'on doit d'une certaine façon subir en se disant est-ce qu'on va pas quitter la maison dans laquelle on est aujourd'hui ?
Écoutez, on le vit bien, ça ne nous empêche pas de sortir un numéro anniversaire et un peu événementiel pour les 75 ans. Ça ne nous empêche pas, par exemple, d'avoir lancé une nouvelle application ces derniers jours avec une navigation améliorée, avec une grande place réservée à la photo et à l'image. Donc on n'est pas à l'arrêt, on n'est pas pris dans du béton à attendre le bec dans l'eau que des choses avancent ou n'avancent pas. Paris Match vit, Paris Match sort toutes les semaines, Paris Match essaie d'investir, de se renouveler. Donc ces négociations exclusives, elles aboutiront ou elles n'aboutiront pas un jour. En attendant, ça n'est pas handicapant pour le journal, pour Match, d'être dans cet entre-deux, si je puis dire.
Le Monde sécurise son indépendance. On a appris cette semaine que Xavier Niel finalisait la cession de ses parts dans le groupe Le Monde à un fonds indépendant. Le pôle d'indépendance du groupe Le Monde a salué, je cite, une avancée historique obtenue grâce à l'engagement de Xavier Niel. C'est ce que nous dit Le Figaro. L'actualité de la publicité digitale marquée par l'annonce de Google, les cookies tiers ne seront pas supprimés de son navigateur Chrome à la fin de l'année comme prévu. L'info a été diffusée sur le blog du géant américain, elle est assez laconique et ne donne pas de nouveau calendrier. Le report à 2025 de Google n'est pas une surprise mais en dit long, titre le journal du net. En plus de problèmes évidents d'incompatibilité de calendrier, la décision de Google rendue publique quelques jours avant la publication du rapport trimestriel de la CMA, l'autorité de la concurrence britannique, laisse présager des nouvelles difficultés pour la Privacy Sandbox, l'alternative aux cookies tiers. Si Google annonce reporter la suppression de la Privacy Sandbox à la veille de la publication par la CMA de son rapport de suivi, c'est très probablement que ce dernier indiquera que l'outil n'est pas prêt, en conclut un observateur bien placé Le média en ligne Minted publie un rapport assez édifiant sur le cataclysme auquel se préparent les éditeurs dépendants des cookies dans la monétisation de leurs inventaires. La plateforme d'ad management Pubstack a mesuré l'évolution des revenus d'une soixantaine d'éditeurs et de 10 000 sites pour les 1% des utilisateurs pour lesquels Chrome a déjà retiré les cookies tiers en début d'année. Et les chiffres sont implacables. Le revenu pour 1 000 enchères des éditeurs chute de près de 50% en moyenne sur les enchères en pré-bid. Et puis dans l'actu tech également, Alliance Digitale a publié son premier référentiel de la mesure du e-retail média, un groupe de travail qui a œuvré pendant plus de 6 mois pour identifier ceux qui faisaient référence dans 5 catégories et qui ont un point commun, le shopper. C'est à lire dans themedialeader.tech et Minted. Spotify passe dans le vert au premier trimestre et voit son nombre d'abonnés payants augmenter. Le groupe a enregistré 615 millions d'utilisateurs actifs, légèrement moins que sa prévision de 618 millions. C'est ce qu'écrit The Media Leader. Et puis également les résultats de Netflix qui a annoncé avoir gagné plus de 10 millions d'abonnés au premier trimestre 2024. La plateforme de streaming a également annoncé qu'elle ne communiquerait plus le nombre d'abonnés. Le chiffre retail de la semaine, 78% des Français vont faire évoluer leur comportement d'achat dans les prochaines semaines. 35% seront plus attentifs au prix et 32% vont rechercher davantage de promotions. Plus d'études retrouvées sur le site corporate.bonial.com. Vous retrouvez également le lien de cette étude dans la description de ce podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de nous suivre chaque semaine. Cet épisode a été préparé par la rédaction de The Media Leader. On se retrouve vendredi prochain, le 3 mai, à partir de 6h, sur toutes les plateformes d'écoute.